L'invité du jour.
Notre invité ce matin, Claude Riboulet, bonjour.
Bonjour.
Maire donc de Commentry. On va commencer par l'actualité chaude. Les socialistes ont tenu hier une conférence de presse en gare de Commentry pour inciter vivement la région et la SNCF à se mobiliser pour l'avenir de la gare. Êtes-vous inquiet pour la gare de votre commune?
Écoutez, moi, à ce jour, je n'ai aucune information qui nourrirait des inquiétudes par rapport à la gare de Commentry. Des inquiétudes, on en a eu dans le passé, notamment quand il s'est agi de réduire les horaires d'ouverture et la présence physique au guichet de la gare de Commentry. J'ai pas souvenir d'ailleurs que les socialistes étaient présents à nos côtés à ce moment-là pour nous aider à repousser cette décision. Mais enfin bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le conseil municipal, comme le conseil communautaire, ça fait de nombreuses années qu'on prend un certain nombre de motions pour défendre le train au sens large et le train singulièrement à Commentry, et qu'on regrette comme tous qu'effectivement il y ait des liaisons nord-sud, est-ouest, qui aujourd'hui soit est disparu, soit ne soit pas optimisé.
D'accord, pourtant ils s'appuient sur un rapport alarmant de SNCF, par rapport au réseau.
Oui, mais par rapport au réseau, aux infrastructures, alors je vais simplement rappeler, le régisseur du réseau c'est RFF, il peut y avoir des cofinancements par effectivement une collectivité qui s'appelle la région. L'organisation ensuite du flux des trains, c'est pour partie SNCF, pour partie la région, quant à l'achat de ce qu'on appelle le matériel roulant.
Donc pour vous c'est un effet d'annonce, quoi?
Bon, j'ai tendance à dire, je pense qu'il faut en fait avoir une vigilance permanente sur ces questions-là. Et que c'est pas simplement quelques mois avant les élections électorales, avant les élections qu'il faut commencer à se réveiller.
Il y a quelques jours, le syndicat FSU se positionnait aussi pour l'ouverture d'une section hôtelière à Commentry plutôt qu'à Montluçon. Est-ce que Commentry et le lycée Geneviève Vincent sont candidats pour accueillir cette section-là?
Alors, c'est un dossier qui a déjà plusieurs années, qui fait suite à la question de la fermeture de Saint-Vincent à Montluçon, puisqu'en fait, on l'appelle tous Saint-Vincent. Et effectivement, Madame le proviseur de l'époque avait déposé un dossier pour présenter le lycée Geneviève Vincent comme établissement candidat à pouvoir recevoir cette filière-là. On était dans une période où on ne savait pas d'ailleurs s'il y avait d'autres solutions et d'autres alternatives. Le nouveau proviseur a redéposé l'an dernier au mois de juin, lui et son conseil d'administration, on va s'en dire, de nouveau le dossier de candidature de Commentry. Bon, moi, ma position là-dessus, elle est la suivante. Historiquement, cette filière était sur Montluçon, c'était Saint-Vincent, on la connaît bien. Si, effectivement, à un moment donné, Saint-Vincent ne souhaitait pas poursuivre d'une façon ou d'une autre, Commentry avait aussi légitimité pour pouvoir se positionner là-dessus. Ce qui me paraît être l'essentiel, c'est que cette filière continue d'exister dans le bassin Montluçon-Commentry au sens large.
Il n'y aura pas de bataille, en tout cas, avec Montluçon. On parle d'une ouverture...
Je vais vous dire, on est sur des dossiers qui sont un peu différents. Dans un cas, il s'agit de transformer une ancienne école, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Elle
a créé la filière. Dans l'autre cas, on est dans un lycée qui a déjà un restaurant d'application, une cuisine, entre guillemets, pédagogique, sur lequel il y a des travaux à faire qui sont d'ordre différent. Moi, je pense qu'au final, il y aura aussi une question d'étude du coût. Parce que dans tous les cas de figure, il faudra bien que le conseil régional, sans doute, financièrement participe ou pas. Sachant qu'à Geneviève Vincent, on a des travaux qui sont prévus, qui ont déjà été faits et qui sont prévus. Donc à partir de là, ce qui sera aussi un critère déterminant, c'est comment ça sera un investissement le moins onéreux pour les collectivités.
En tout cas, ce qu'on espère, c'est que la filière existe sur le bassin, entre guillemets, entre soit Commentry ou Montluçon. On espère que les projets vont pas se... Il n'y aura pas de bataille, car qu'on n'est rien au final.
Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de bataille. Pour l'instant, à ma connaissance, il y a deux projets qui sont candidats tous les deux et qui doivent être instruits. Bon. Donc moi, je ne vous annoncerai pas c'est à Commentry que ça se fera. Je n'annoncerai pas c'est à Montluçon que ça se fera. Je dis simplement il y a des instances qui doivent décider de la pertinence de chacun des projets et qui prendront la décision qui leur semblera être la meilleure. Par contre, puisque vous me parlez de Geneviève-Vincent, au-delà de cette question d'une filière hôtellerie à Geneviève-Vincent, moi je suis beaucoup plus inquiet par contre par le devenir des filières qui existent déjà sur ce lycée professionnel à Commentry. Il y aurait... des perspectives à développer. On a quand même eu des vraies difficultés sur des filières où aujourd'hui les effectifs ont été moindres. On a même renvoyé sur des lycées de Montluçon des jeunes qui voulaient s'inscrire à Geneviève Vincent à Commentry. Et on évoquait tout à l'heure la gare. Moi, j'ai déjà saisi le président du conseil régional, madame le recteur, sur ces questions-là à la demande des enseignants du lycée Geneviève Vincent. Je crois qu'il faut être particulièrement vigilant sur la pérennisation de ce lycée.
Quelles filières sont menacées?
En fait, si vous voulez, il y a tout un travail qui existe depuis très longtemps, notamment autour de biotechnologie et des choses comme ça. Et à un moment donné, toute la question, c'est vers où on va à Geneviève-Vincent. Est-ce qu'on reste sur des filières qui fonctionnent bien, les services à la personne fonctionnent bien, par exemple. Est-ce qu'on développe sur des filières qui sont plus calées, mais c'est déjà le cas, avec le marché de l'entreprise, avec le tissu industriel qu'il y a derrière. Et je vais aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui doit se poser sur l'ICI Geneviève-Vincent, c'est est-ce qu'on pense qu'on peut développer une filière post-bac ?
D'accord. Vous avez clairement des craintes sur l'avenir à court terme, à moyen terme ?
À très court terme, non. À moyen terme, je crois qu'il faut faire très attention.
Il y avait aussi l'école Pourchereau, où on parlait de fermeture à une époque. Où est-ce qu'on en est ?
Alors, vous avez raison de dire « on parlait de fermeture ». C'était l'arme. L'école de Pourchereau, c'est un sujet que j'ai voulu prendre à bras le corps. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue. Pour la première fois depuis très longtemps, on a souhaité, avec l'équipe municipale et avec les directeurs des écoles de Commentry, l'inspecteur pédagogique de circonscription, M. Lépineux, et les services municipaux, anticiper l'évolution des effectifs. Et les évolutions des effectifs scolaires, ils ne sont pas brillants. Pour le dire clairement, il y a une école qui est à peu près consolidée sur du court et du moyen terme, c'est l'école du Vieux-Bourg, qui n'a pas trop de craintes à avoir. Et on a deux écoles qui, elles, sont beaucoup plus exposées. C'est l'école Édith Busseron et c'est l'école de Pourchereau. Mais en termes de diminution d'effectifs, la première à être impactée, c'est Pourchereau. Qui aujourd'hui est encore une école élémentaire à trois classes et qui, j'ai dit ça l'an dernier, l'été. Donc sur la dernière période scolaire.
D'accord.
Et qui très vite peut se retrouver sur une école à deux classes pour cinq niveaux. Et donc, j'ai souhaité alerter en disant, attention, là, demain, 5 niveaux CP, CE1, CE2, CM1, CM2 sur 3 classes,
ça passe,
peu d'effectifs par classe. Mais demain, si cette école devient une école à 2 classes pour 5 niveaux, je crains qu'il y ait une désaffection. Bon, les parents, les enseignants m'ont dit, pas du tout, nous on tient à cette école de proximité, quand bien même il y aurait que 2 classes, ça ne nous posera pas de problème. Soit. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais quand on sait qu'il y a sur la commune d'autres écoles qui, elles, peuvent avoir un niveau par classe ou maximum de niveaux par classe, j'ai voulu, moi, attirer l'attention. Bon. Aujourd'hui, on va modifier la sectorisation de l'école de Pourchereau pour essayer de récupérer des enfants et des familles qui, aujourd'hui, sont sectorisés sur le Vieux-Bourg, qui est saturé, qui pourraient revenir sur Pourchereau. Mais voilà, je dis, il y a une vraie vigilance à faire. Alors, évidemment, on m'a dit, est-ce que vous voulez fermer cette école ou pas fermer cette école ? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, mis à part le Vieux-Bourg, Busseron a eu des classes fermées ou des postes supprimés, Pourchereau aussi.
Parlons d'économie, peut-être, avec notamment la centrale biomasse chez Adisséou. On en est où concrètement de ce projet-là ?
Bon, il faut dire les choses, il y a un peu de retard au démarrage. Non pas au démarrage de technique, parce qu'il a déjà été effectué, mais au démarrage officiel de la production. Bon, c'est pas à moi de vous répondre. Je vous invite à contacter les gens de Néoen, Jacques Delmar par exemple, qui est plus habilité que moi pour vous dire ce qu'il en est. Bon, en deux mots, il y a quand même eu un retard pris par l'opérateur constructeur sur le calage définitif, et on est plutôt sur des ajustements de cette chaudière turbine qui fait qu'aujourd'hui la réception n'est pas faite officiellement.
D'accord.
La réception des travaux.
On avait aussi entendu parler d'une installation d'unité de bioraffinage. Ça aussi, c'est un projet.
C'est un projet qui s'appelait CMV, en fait, d'une grosse start-up de la région de Toulouse qui voulait développer effectivement du biocarburant sur un principe, vous avez parfaitement raison, de raffinage, et qui, au-delà du biocarburant, est capable de produire un certain nombre de choses intéressantes, notamment de la biolignine, qui permet d'avoir presque comme des matières plastiques, uniquement à partir de fibres végétales. Ce projet, pour l'instant, il est en stand-by. Alors, on le suit de très très près avec Adisséou, puisque le lieu d'implantation, c'était la plateforme industrielle d'Adisséou sur un ancien site qui appartenait à la commune qu'on a cédé à Adisséou, qu'Adisséou a détruit, l'ancien site de Visserie-Forgé du Bourbonnais. Aujourd'hui, il y a des questions de recapitalisation du projet, d'orientation industrielle. Adisséou reste un interlocuteur, la commune reste un interlocuteur de ses porteurs de projet, mais voilà, il y a un petit stand-by.
L'actualité, c'est également la fusion des Comcom. Vous avez trouvé un nom pour celle de Commentry, Néry, Montmarault ?
Les 33 maires réunis ensemble devaient choisir un nom temporaire.
D'accord.
Bon, on a cherché quelque chose d'ultra original. qui va surprendre tout le monde, ça sera Commentry, Montmarot, Néry, Communauté.
D'accord.
Mais ça, c'est dans un premier temps. On aura après tout loisir de pouvoir trouver un autre nom. Mais aujourd'hui, voilà, c'était d'un côté la communauté de communes de Commentry, Néry-les-Bains, de l'autre côté la communauté de communes de la région de Montmarot. Mmh. Donc ça sera Commentry, Montmarot, Néry, Communauté.
D'accord. Ça va être compliqué quand même de trouver quelque chose de court.
Écoutez, on a le temps d'y voir, on verra, il y a peut-être d'autres pistes. Mais c'est vrai que si vous voulez, pourquoi ce nom? Parce que tout compte fait, au-delà du fait que ce soit le fait d'accoler les deux anciens noms. Commentry, c'est une image de ville industrielle, de bassin d'emploi. Montmarot, c'est l'image du nœud autoroutier, de l'accès des infrastructures autoroutières et RCEA. Et puis Néry-les-Bains, c'est quand même la station thermale de notre territoire. Donc c'était dommage de cacher cette promotion.
Bien sûr. Ouais. Évidemment. Parlons évidemment dans l'actualité. Eh bien, actuellement, ce sont les primaires à droite. On sait que bon, vous êtes vous à l'UDI. Donc logiquement, vous devriez vous rapprocher de la JUP, c'est ça?
C'est pas logiquement, c'est fait.
D'accord.
C'est fait. Il y a quelques semaines, là, 15 jours à peu près, Jean-Christophe Lagarde a co-signé une tribune avec un certain nombre de cadres de l'UDI, 600 co-signataires dont je faisais partie, pour rallier et soutenir la candidature d'Alain Juppé dans ses primaires de la droite et du centre. Voilà. Les raisons sont simples. D'abord, c'est sans doute l'homme qui a la ligne politique, la ligne de programme qui est la plus proche des idées du centre, fédéraliste, humaniste. Deuxièmement, on n'avait pas spécialement envie d'avoir un deuxième tour Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. On préfère avoir un deuxième tour Alain Juppé, éventuellement Marine Le Pen, pour pouvoir se retrouver davantage dans les lignes qui sont celles qui tiennent au cœur des centristes. Et puis enfin, et je m'en réjouis, on le constate aujourd'hui, on voit bien que la longueur d'avance qu'il avait, il a été capable Alain Juppé de la consolider. Il continue de faire la course en tête, et donc il n'y a pas de raison qu'il ne finisse pas la course en vainqueur. Et aujourd'hui, tout le monde pressent bien que celui qui gagnera la primaire à droite sera le prochain président de la République.
Alors, ce qui nous emmène directement aux législatives, serez-vous candidat, vous, pour donc sur l'autre territoire?
Je vais vous faire la même réponse que celle que je vous ai fait il y a quelques semaines, en tout cas depuis le mois de juin. Mmh. Et alors, je vous le dis aussi, ça sera la même réponse, grosso modo, jusqu'au mois de décembre. Donc, je veux bien revenir avec plaisir chez vous.
Mais
jusqu'au mois de décembre, je vous ferai toujours la même réponse.
Qui tente rien à rien.
Mais vous avez raison. Mais aujourd'hui, c'est pas que je veux pas dire, ouais. C'est que c'est juste le respect des procédures de décision. Je suis pré-investi par l'UDI. Donc voilà. L'UDI m'a accordé la pré-investiture pour être candidat aux élections législatives et porter les couleurs de l'UDI sur la deuxième circonscription de l'Allier. Bien. Mais nous sommes dans l'attente d'un accord national entre le parti Les Républicains et l'UDI. Cet accord ne pourra venir qu'après la primaire, puisque Jean-Christophe Lagarde devra le négocier avec celui sans doute qui gagnera cette primaire. À partir de là, l'accord dira quoi? Les circonscriptions qui sont sortantes Républicains-UDI resteront droite suite pour les Républicains quand c'est un député républicain sortant, pour l'UDI quand c'est un député ou une députée UDI sortant.
Ce qui n'est pas le cas ici.
Ce qui n'est pas le cas des circonscriptions sortantes à gauche. Et là, l'accord dira soit elles sont circonscriptions réservées, et elles peuvent être réservées aux Républicains, mais aussi à l'UDI, soit circonscription à primaire, ce qui voudrait dire qu'au premier tour, il y aurait un candidat républicain, un candidat UDI, et que celui qui est second soutient le premier pour le second tour. Bon, on sait que ces primaires à droite sont jamais, au moment de l'élection, la meilleure solution pour gagner. Bah, c'est plutôt même le meilleur handicap si on veut se prendre les pieds dans le tapis.
C'est toujours risqué un petit peu, oui.
Exactement. Donc je serai strictement respectueux de ce que cet accord dira. Si l'accord national dit que la deuxième circonscription de l'Allier est réservée aux Républicains, ma candidature n'ira pas plus loin. Ça sera donc Daniel Duglery, qui lui préinvestit par les Républicains, qui sera seul candidat de la droite et du centre. Et si c'est l'inverse, la logique voudrait que ce soit moi le seul candidat de la droite et du centre.
Merci Claude Riboulet, à très bientôt.
Je vous remercie.
Au revoir. L'invité du jour.